Cette commission est née à Marrakech, en marge de la COP Kilimand, COP 22 à Marrakech. C'était à la suite du haut sommet des chefs d'État qui a été organisé à l'initiative du roi du Maroc, que les chefs d'État africains, dans le souci de montrer à la communauté internationale leur volonté d'accompagner, non seulement la communauté internationale, mais aussi de faire preuve aussi de leur disponibilité à amener leur pays à pouvoir apporter leur contribution significative à l'effort global de réduction des émissions. Donc ils ont pris le leadership de créer 3 commissions au niveau africain, dans le souci de faire valoir un mécanisme adéquat de mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique. Donc ces 3 commissions, je le cite, il y a la commission pour la région du Sahel, dont la coordination a été accordée au Niger, mon pays. Donc de facto, le président du Niger est le président de la commission de cette région. Il y a la commission du bassin du Congo, qui est présidée par la République du Congo, et la commission des îles, qui est présidée par les Seychelles. Le Niger étant le président de la commission du Sahel, juste après le retour de la COP, dès janvier, il était enclenché un processus au niveau national pour pouvoir créer les conditions de lancer l'opérationnalisation de cette commission. D'ailleurs, au passage, j'allais vous dire que cette commission, après la réunion de Marrakech, le 30 au 31 janvier, la dernière Assemblée générale de l'Union africaine, a eu entériné les décisions du sommet des chefs d'État qui a tenu actuellement. Donc, ce qui donne encore une base juridique, en fait, à ces commissions qui ont été créées. Donc pour la nôtre, la commission du Sahel, il y a eu à même passé à Niamey une réunion du groupe de travail conjoint, réunion au cours de laquelle il y a eu un cadre qui a été mis en place, notamment le groupe de travail des experts des pays membres, un groupe qui regroupe 2 experts par pays, qui est dirigé par un président.
Vous êtes le président.
Je suis le président. Et c'est une commission qui a 3 régions géographiques. Il y a l'Afrique de l'Ouest parmi les 17 pays, dont 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Ce qui fait que, pour donner une certaine étendue en fait, de la commission, 17 pays qui partagent les mêmes, à un certain égard, soit certains pays intégralement, certains aussi de leur zone nord, des conditions hydrophobes climatiques qui répondent aux caractéristiques du Sahel climatique. En fait.
Donc pour résumer, pour que nos auditeurs puissent comprendre, là vous parlez en tant que technicien, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette réunion?
Une discussion va se porter sur l'échange sur le projet de mandat du groupe de travail conjoint de la Commission. Il y aura un échange des experts là-dessus, parce que le Niger, en tant que pays coordinateur du moins, a préparé un projet de mandat qu'il va soumettre au pays. Le mandat, en fait, c'est l'ensemble en fait, des missions et des charges indiquées comme opportunes pour pouvoir permettre une fonctionnalité et un cadre organisationnel et opérationnel dynamique du groupe de travail conjoint de la
Commission. En clair, en français facile.
En français facile. D'abord, statuer sur comment ce groupe, ce cadre, pourrait créer les conditions de faciliter l'opérationnalité de la Commission qui vient d'être née. Donc, c'est l'ensemble des missions, notamment en termes de suivi. Il y a actuellement un plan d'investissement climatique régional qui est en cours d'élaboration, dont des consultants ont été identifiés avec l'appui de la Banque africaine de développement pour la Commission. Et donc, cette étude d'élaboration du plan d'investissement climatique, le groupe sera chargé de suivre son élaboration. Le groupe est tenu de veiller à ce que ce processus soit réalisé, non seulement dans le délai, mais de façon attendue par les pays membres.
On sait que les pays du Sahel partagent quasiment les mêmes inquiétudes liées au réchauffement climatique. Est-ce que vous avez une position commune à défendre ce mercredi?
Oui, tout à fait, nous avons une position commune, parce que nous avons des défis communs. Nous avons des défis communs. Je vous dis jusqu'à preuve du contraire, le souci c'est de créer une certaine inclusivité. C'est-à-dire qu'au niveau de cette commission, on ne voit pas le pays, on voit en fait la région. Même les experts qui sont identifiés par pays ne viennent pas défendre, ce n'est pas un groupe de négociation où chacun tire en fonction de ses propres intérêts. Avec ce... non. Nous formons une zone, nous formons une cause, nous formons un seul défi. Ce qui fait que les défis, c'est quoi? Comment créer les conditions de faire drainer toutes les nouvelles initiatives qui sont nées en marge de l'accord de Paris et qui existent encore? Comment on va créer les conditions de favoriser un meilleur financement de ces initiatives et aussi une meilleure mise en œuvre de ces initiatives dans nos différents pays au grand bénéfice de nos populations?
Parlons justement de l'accord de Paris. Ouais. Est-ce que les pays du Sahel ont déjà commencé à avoir un début d'exécution des principaux points adoptés à Paris il y a 2 ans?
L'un des principaux instrument de l'accord de Paris, c'est nos contributions nationales déterminées. Les INDC que les anglophones disent, chacune des INDC pour chaque pays a 2 volets. Il y a les scénarios, c'est-à-dire qui recourbent l'ensemble des initiatives conditionnelles, et il y a les scénarios aussi inconditionnels. Les scénarios conditionnels, c'est quoi? C'est des actions que chaque pays a identifiées, qui disent que je veux m'engager à pouvoir les exécuter, mais à condition que la communauté internationale m'apporte un soutien. Maintenant, il y a les scénarios, l'ensemble des initiatives aussi que chaque pays a identifiées pour dire que ça, avec ou sans soutien, je vais le faire. Notamment sur la base, en fait, de ma programmation annuelle, les budgets annuels ou quinquennales, c'est-à-dire que les ressources propres au pays.
Et pour le cas du Niger, concrètement.
Pour le cas du Niger, c'est pour vous dire que, pour le cas du Niger notamment, nous sommes dedans depuis 7 ans. Et à travers non seulement notre plan de développement économique et social, mais aussi dans son axe 3, qui est l'initiative 3N, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. L'initiative, son leitmotiv, c'est faire en sorte que la sécheresse ne soit pas synonyme de famine. La sécheresse, on ne peut pas l'empêcher parce que c'est l'un des facteurs des caprices de la nature.
Pourtant, la sécheresse et la famine sont quand même des mots qui entravent le développement des pays du Sahel, le Niger, le Tchad, le Burkina.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est des phénomènes naturels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les prévenir, mais on peut mettre en place des meilleures politiques pour pouvoir mitiger leurs effets. Et au Niger, c'est ça que nous avons fait. Et je vous dis aujourd'hui, l'Internet, ça vous informe bien, depuis 7 ans, il est difficile qu'on vous dise qu'au Niger, on peut vous dire qu'il y a eu 3 saisons agricoles qui ont été déficitaires, pas cette année quand même, mais il n'y a jamais eu une famine au Niger. Contrairement aux années antérieures, aux décennies antérieures, où tout le temps vous entendez parler de famine.
Depuis 7 ans, il n'y a pas eu de famine.
Non, depuis 7 ans, nous avons connu 3 saisons pluvieuses qui ont été déficitaires, mais eu égard aux mesures et aux actions qui ont été prises par le gouvernement du Niger depuis 7 ans, et ça a permis en fait d'endiguer et de contrecarrer en fait ces effets-là. Donc c'est en fait ces actions pareilles en fait qu'au niveau régional, des pays peuvent se partager des bonnes expériences afin de pouvoir créer les conditions de renforcer la vulnérabilité de nos populations face au changement climatique.
L'avancée du désert menace dangereusement les pays du Sahel, dont le Niger. Quelles sont les mesures pratiques que votre gouvernement a eu à mettre en place pour justement faire face à cette réalité?
Le désert au Niger, il est antérieur même à la convention climat, il est antérieur même à l'agenda 21 de 92. C'est un phénomène qui, il faut le dire, nos populations, ça fait des années et des années que...
Pour ne pas dire des siècles.
Pour ne pas dire des siècles, qu'elles sont préparées à leur grande âme pour pouvoir contrecarrer ce phénomène. Mais maintenant, d'un point de vue technico-pratique, au point de vue de politique du gouvernement, les différents gouvernements successifs du Niger ont toujours pris des mesures de politique, des stratégies visant à mitiger l'avancée du désert.
Par exemple, inciter les populations à planter des arbres et à ne pas couper les arbres.
Les campagnes de reboisement et aussi les changer de comportement aussi. Parce que en fait, le problème qui se pose, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de planter des arbres, mais il faut aussi assurer l'éducation des arbres. Quand on plante l'arbre et on le laisse, il va mourir. Mais il faut aussi la phase d'éducation, tout le processus de l'accompagnement pour que l'arbre puisse être mieux être intégré dans l'écosystème. Il y a tout un travail à faire, tout un accompagnement à faire. Et cet accompagnement ne doit pas se faire seulement par le gouvernement, ça doit se faire en relation avec les populations, ça doit se faire en relation avec toutes les parties prenantes. Et toutes nos politiques au Niger ont tenu compte de cet aspect-là. Il n'y a jamais une politique qui a été née dans un bureau. Et surtout, ça fait ces dernières années, c'est des politiques qui sont inclusives. C'est-à-dire que c'est parti de la base d'abord. Il faut créer les conditions d'écouter les populations, d'écouter leurs aspirations. Et sur la base de ça, maintenant, il est rapporté des grands éléments, des messages clés par lesquels maintenant des stratégies et des politiques sont préparées, et tout ça sur la base en fait de l'orientation qui a été donnée par le chef d'État du Niger dans le cadre de la stratégie Initiative 3N.
Oui, le chef de l'État du Niger qui est, selon nos sources, attendu d'ici la semaine prochaine, précisément le 14. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée de l'agenda du président Issoufou pendant son séjour à Bonn?
Un président, vous le savez très bien, même si je suis dans son cabinet, le seul agenda que je pourrais maîtriser, c'est l'agenda spécifique au dossier climat.
Justement, qu'est-ce que le président Issoufou va proposer de mieux ici à Bonn?
Le président du Niger ne fait pas de différence entre les COP. Chaque COP, pour lui, c'est en fait un engagement, c'est un événement important pour l'humanité, et il faudrait que le Niger fasse sa marque. Et qui incarne le Niger, c'est le chef d'État du Niger. Donc quand il viendra, il aura posé un message. Et ce message, c'est à la fois, non seulement, de rappeler à la communauté internationale l'engagement du Niger vis-à-vis de l'accord de Paris, et aussi rappeler aussi le devoir de la communauté internationale d'accompagner nos pays, notamment le Niger, pour pouvoir créer les conditions à ce que l'engagement que nous avons pris sur nos CDN puisse être honoré, notamment les actions conditionnelles du moins, où nous avons dit qu'il nous faudrait un accompagnement de la communauté internationale. Et sur ça, il est clair que dans le message que va adresser le chef de l'État, il va s'en sortir ces éléments-là. Et mais aussi créer les conditions de favoriser une certaine solidarité internationale, à la fois pour certains défis et certaines questions émergentes.
Ouais, donc le Niger est prêt hein, à œuvrer pour la mise en œuvre des accords de Paris, mais avec le soutien de la communauté internationale.
Bien évidemment, parce que le Niger fait partie de plusieurs groupes de négociation. Le Niger soutient en tant que pays parti le groupe africain. Le Niger soutient en tant que pays parti des pays les moins avancés. Donc le message du Niger ne porte pas seulement les aspirations du Niger. Le message du Niger, c'est cohérent, c'est l'incarnation aussi du message du groupe africain, c'est l'incarnation aussi du message de la position des pays les moins avancés. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà même de ça, c'est un message qui va dans le sens de faire la voix et à toutes les populations qui, chaque matin que Dieu fait au niveau international, au niveau mondial, souffrent au quotidien des aléas climatiques, parce que c'est quelque chose que nous, on en connaît.
Le Niger partage avec le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, hein, le lac Tchad qui était l'un des plus grands lacs d'Afrique qui est menacé de disparition. Est-ce que ce n'est pas un sujet préoccupant pour vous?
Bien sûr. Je vous dis, c'est-à-dire que il y a, entre autres, parmi les initiatives que la Commission climat pour la région du Sahel s'apprête à apporter sa contribution dans le sens d'assurer une meilleure prise en compte, mise en œuvre des actions durables pour pouvoir sauver ce grand bassin, ce grand bijou de la sous-région, c'est évidemment le renforcement des initiatives qui sont déjà en cours de la Commission du bassin du lac Tchad. Nous avons pensé à créer les conditions d'élargir la Commission du Sahel jusqu'au Cameroun. Parce que vous voyez, le Cameroun étant aussi dans le bassin du Congo, nous nous sommes dit que c'est important qu'on crée les conditions non seulement de faire en sorte que cette commission puisse avoir des liens avec les autres commissions, en ayant des pays qui ont un pied de ce côté, un pied de l'autre côté, mais aussi, l'autre souci majeur, c'est quoi ? Nous sommes conscients que notre République, le président Issoufou, était déterminé. Il avait le souci de sauver le lac Tchad.
Justement, parlant du sauvetage du lac Tchad, oui, on a toujours parlé, par exemple, des eaux de Lubangui qui pourraient renflouer donc, les eaux du lac Tchad. Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable?
Oui, bien sûr, c'est une solution durable, mais qui est coûteuse aux yeux des partenaires. Mais moi, je me dis, vous êtes évidemment d'accord avec moi, que entre le coût de l'investissement et le coût, en fait, de l'abandon du lac, quelle qu'en soit votre idéologie, je crois que vous serez à la faveur de favoriser, d'opter pour le coût de l'investissement afin de favoriser, de sauver le lac Tchad.
Mais on a comme l'impression que les pays membres du bassin du lac Tchad ne font que crier, sonner la sonnette d'alarme. Aucune action concrète n'est menée pour justement sauver ce lac.
Ça fait combien de fois que vous n'avez pas visité la zone?
Mais la dernière fois, c'était en 2012.
En 2012. Mais je vous dis, de 2012 à maintenant, ça fait 5 ans. Moi, je vous dis que si vous partez dans la zone du lac Tchad, vous allez voir sur place que des actions se font.
Et ça, c'est du côté du Niger uniquement?
Je ne vous dis pas que c'est seulement du côté du Niger. Je sais pertinemment qu'à la fois au niveau national et de façon concertée aussi avec les autres pays riverains, il y a des actions qui se font. Mais tout naturellement, il faut le dire, le défi est tellement énorme que ça dépasse l'effort que nous fournissons au niveau national comme au niveau sous-régional avec les pays riverains. Tout naturellement, il est clair que la question du lac Tchad, il faut que ça soit prise comme une question de défi international. Donc, c'est vrai, il y a eu un plan d'investissement qui a été même élaboré, qui malheureusement a souffert d'une table ronde pour son financement. Et nous pensions que peut-être que dans le cadre de la commission climat, et notamment son plan d'investissement climatique qui est en cours d'élaboration, et une table ronde est prévue à Niamey. Et nous espérons que c'est courant 2018, il y aura cette table ronde pour le financement du plan d'investissement climatique pour la commission climat, que ça pourrait servir de tremplin pour pouvoir financer en fait les actions qui ont été programmées dans le cadre de ce plan pour le cas spécifique du bassin du lac Tchad.
Nous nous acheminons donc vers la fin de notre entretien. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez résumer un peu les attentes du Niger par rapport à cette manifestation, à cette conférence de la COP23?
Les attentes du Niger, pour mon humble avis, c'est non seulement nous attendions à ce que vraiment les mécanismes de financement de la mise en œuvre de l'accord de Paris soient, que les gens de toutes les parties s'accordent et s'entendent, que ce soit des mécanismes qui sont clairs. Et deuxièmement, comment on appelle ça, pour rester cohérent et solidaire à la position du groupe africain, les attentes du Niger, c'est aussi c'est de voir que la question de la transparence soit quelque chose de clair. C'est de voir que la question de l'adaptation soit prise en compte, parce que c'est notre préoccupation majeure, soit prise en compte autant que l'atténuation. C'est de voir à ce que vraiment les pays développés puissent clarifier davantage leur mécanisme de financement des différents fonds, notamment le fonds vert de Kilimanjaro. C'est de voir aussi qu'il y ait un début d'échange, de réflexion visant à rendre plus flexibles les voies d'accès au financement du fonds vert Kilimanjaro. Donc, entre autres, voilà les attentes majeures. Et plus spécifiquement maintenant, eu égard à certaines charges qui sont sur la tête du Niger, notamment la coordination de la commission Kilimanjaro pour la région du Sahel, le Niger s'attend à ce que cette commission Kilimanjaro puisse être accompagnée, notamment dans sa phase de mise en place de son dispositif national, jusqu'à sa phase de mise en œuvre des premières initiatives qui seront ciblées. Le Niger attend aussi, à partir de cette COP, avoir mobilisé les partenaires, parce que nous avons une table ronde pour notre plan de développement économique et social pour le deuxième quinquennat.
Et qui est prévu pour quand ?
À Paris en décembre. Donc nous attendons mobiliser.
Le 14 décembre.
Oui, le 14 décembre. Nous attendons mobiliser un certain nombre de partenaires pour pouvoir assurer une meilleure réussite de cette table ronde et les meilleures attentes par rapport au montant que nous estimons à mobiliser pour les 5 ans à venir pour pouvoir financer pour notre plan de développement économique et social, acte 2.